Train.
Couture dans le mille.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Fait que, c'est ça.
Radio X.
Aïe, 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 le shutdown aux États-Unis, de 10h42 sur CNN, il y a un timer. Et là, c'est le porte-parole des démocrates qui dit que là, si les républicains veulent travailler avec nous autres, on va... Tu sais, c'est...
Ouais, ouais,
on tourne en rond, là.
Absolument.
Ça pourrait être long. Ça pourrait être à suivre. Notre chroniqueur, il est là, Sylvain Charlebois, le faux professeur. Sylvain, comment vas-tu?
Hey, ça va bien. Les gars, j'ai une question pour vous autres. S'il y avait un shutdown au Canada pour ce qui est du gouvernement fédéral, pensez-vous qu'on s'en rendrait compte?
Ben moi, je te dis... ben, penses-tu que ça pourrait arriver? Parce que...
Ben, si on continue avec le déficit, oui. on n'aura plus d'argent pour payer personne.
Parce qu'ici...
Ben, en fait, ouais, je fais des blagues, mais tu sais, dans le fond, un shutdown au Canada, c'est pratiquement impossible parce que, évidemment, le rôle des syndicats et tout ça... là. Est tellement puissant, influent, que je ne penserais pas que ça arriverait au Canada. Mais pour ce qui est des États-Unis, là, on sait bien que pour ce qui est de la USDA, la FDA, les inspections alimentaires vont soit ralentir ou même cesser. Et on importe beaucoup de produits des États-Unis. Alors, c'est une situation qu'on suit de très près.
Oui, mais pour un shutdown, moi, je pense qu'on devrait... Parce qu'aux États-Unis, il y a deux choses. Il y a le plafond de la dette qui doit être relevé parce qu'ils sont déficitaires année après année. Et ils doivent s'entendre sur un budget de l'État. Ici, là, il n'y a jamais ça. Là, le plafond de la dette, il y a personne qui s'astine là-dessus. On avait une loi sur la rigueur budgétaire. Tout ça est enlevé. Je trouve que...
C'est sûr que des gens vont dire bon, mais les Américains sont plus endettés que nous. C'est ce qui est vrai. Par contre, ils ont la monnaie de référence à travers le monde. L'argent américain.
Oui.
Et de deux... on se rapproche drôlement des Américains pour ce qui est de la dette nationale par capita. Là. Pour ce qui est de la dette par capita, on est rendu... Avant 2015, le Canada était 7e, je pense. Là, on est rendu 3e après les États-Unis et le Japon.
Oui.
Alors, ça va pas très bien. Là.
Et là, tu mets dette fédérale, dette provinciale, dette municipale. Hein?
Parce qu'on parle juste du fédéral. Là. On parle pas de dette provinciale. Là.
Exact.
Ouais, juste au fédéral.
D'après moi, on est champion. Ouais. On défonce le 100% de notre PIB ou de nos de certains indicateurs. Mais garde tout ça, c'est pas grave. C'est la génération suivante. Ils paieront.
Il faut se poser des questions, mais tu sais, les sondages le démontrent. C'est ce qui est inquiétant actuellement. La plupart des sondages démontrent que les gens, l'électorat... canadien n'est pas très préoccupé par la dette ou le déficit. On veut développer une économie, on veut justement appuyer les secteurs qui sont affectés par le régime trumpiste et tout ça, mais on n'est pas soucieux du déficit ou de la dette pour l'instant. Ce qui est quand même inquiétant, j'ai l'impression qu'on a perdu le sens de la valeur monétaire, là, de la valeur de l'argent. Puis les ménages sont en dette aussi, là, donc on s'en va pas vraiment dans la bonne direction. C'est sûr qu'au niveau de l'économie, on va éviter la récession, là, ce qui est une bonne nouvelle.
Ouais.
Mais l'endettement, là, que ce soit au niveau des ménages, au niveau des provinces au fédéral, là, c'est un poids qui s'accumule, là, qui va influencer nos politiques, c'est clair. Là.
Et quand tu dis aux gens, allez-vous voter pour qui? Mais les gens ne vont même pas voter. Tu sais, tu regardes le taux de votation au municipal ici, là, on va avoir des élections le 2 novembre, là, c'est 39% au Québec, le taux de participation. 39%, imagine. Ouais.
En passant, les gars, j'ai rencontré votre maire, ça me passait.
Ah oui? Est-ce qu'il va bien?
Ouais. J'ai dit, ben oui, j'ai dit, il y a une radio à Québec qui s'appelle Radio X. Connaissez-vous ça?
Ben, il veut pas, il veut pas venir.
Il va être content.
Non, je sais. En fait, c'est une farce, là, j'en ai pas parlé, mais je lui ai quand même dit que sa ville, votre ville, messieurs, Québec, est pas mal plus propre que la ville de Montréal.
Ben, ça a toujours été le cas. Québec a toujours été très propre.
C'est une belle ville. Québec, c'est vraiment une belle ville.
C'est une belle ville, là... mais il faut faire attention parce que là, tu regardes les quartiers chauds, là, la rue Saint-Jean, Saint-Roch. Là, je sais pas si tu étais dans Saint-Roch récemment, là, mais non, il commence à avoir des problèmes de
monde. Sur Sainte-Catherine, loin du Palais des Congrès à Montréal. Là.
Je me suis fait courir après par un. Ça devait être un toxicomane, un zombie. Il est parti à courir après moi, puis mon fils, l'année passée, on est allé à Montréal. On va toujours virer à Montréal une couple de jours. Puis écoute, je me fais courir dans la rue par un gars. c'est capoté, là. On s'est sauvé, on a eu peur.
Ah oui.
Je dis, je retourne plus dans ce coin-là. Ah, c'était dans le coin des piqueries, là. Voilà. Hey,
écoute. Non, je me sens en sécurité à Québec, mais à Montréal, il y a certains quartiers, là, maintenant, il faut faire attention. Ouais.
Ben ici, il y a des quartiers.
Bruno Marchand était là parce que, en fait, il donnait un discours sur à un paquet de transformateurs alimentaires à Québec. Moi, je faisais partie d'un panel la semaine passée. C'était vraiment, vraiment agréable. Il y a vraiment un écosystème agroalimentaire à Québec qui est à célébrer. Puis, j'étais content de voir le maire parce que, tu sais, c'est pas un événement. Il y avait quoi, 250, 300 personnes? C'est pas énorme. Mais il était là parce qu'il voit que. Tu sais, il y a des success stories à Québec. Là, j'ai visité, en fait, à Saint-Augustin, la semaine passée, l'usine MAG. Tu sais, la mayonnaise MAG, là,
oui.
C'est pas loin de Québec. C'est incroyable. Eux, ils ont passé de 12 millions de dollars de chiffre d'affaires à 25 millions de dollars en un an, 12 mois. Ils ont plus que doublé leur chiffre d'affaires en 12 mois.
Et
c'est
ça,
incroyable.
C'est le fait aussi de l'achat local, hein?
Oui, et je salue le PDG Hugo Magnan qui m'a reçu là, les bras ouverts. Là, c'était vraiment agréable comme visite.
Écoute, Mag, tu dis ils font de la mayonnaise, eux autres, entre autres?
Oui.
Bien là, avec la dinde, on pourrait manger ça, mais le prix de la dinde baisse cette année.
Le prix de la dinde a baissé. Avez-vous acheté votre dinde, messieurs?
Pas encore. Récemment, il y a eu un gros deal. Hein? On pouvait avoir de la dinde pour pas cher. Là j'en ai mangé.
Ben, il y a deux semaines au Québec, là, c'était à 99 cents de la livre. Voilà. Là, c'est parti. Mais quand même, le prix de la dinde en moyenne au Canada, au Québec, est en baisse par rapport à l'année passée. Mais il faut faire attention. Là. C'est sûr que lorsqu'on s'aventure vers le maraîcher, les carottes sont moins chères, mais les patates sont plus chères. La canneberge est plus chère aussi. Mais si vous achetez de la canneberge en canne ou votre sauce en canne, c'est sûr que vous allez payer plus cher cette année en raison des tarifs. Là, parce qu'il y a des tarifs sur l'acier, sur l'aluminium.
Ouais,
et c'est sûr que vous allez payer pour. Alors, moi, j'encourage les gens d'acheter dès cette semaine votre dinde gelée parce que vous allez probablement payer moins cher que la semaine prochaine. Puis toutes les à côté, là... Prenez-vous du temps pour aller voir différents marchands puis acheter vos produits ici et là, puis vous allez épargner beaucoup. Il y a deux ans, c'était moins évident, mais cette année, là, les choses sont beaucoup, beaucoup plus calmes. Alors, une bonne nouvelle, nous, on a calculé, en fait, un repas typique de l'Action de grâce cette année par rapport à l'année passée, puis on parle d'une différence de 18 cents. Là. C'est vraiment rien. Là.
C'est rien, mais c'est bon de la dinde hein, quand tu penses à ça, là.
Si c'est bien cuit.
Oui.
Comment tu prépares ça de la dinde, toi, Pierre?
Ben moi, je la fais cuire, là. Il y en a qui allaient, j'espère. Non, je vois pas que la farce, là. Je fais pas toute la farce.
Non, mais t'es-tu le genre de gars qui met la dinde dans le four pendant 24 heures? Là?
Non, je la laisse dégeler.
Qu'elle sèche à mort.
Non, non, je la laisse dégeler deux jours dans le frigo. Ouais. Après ça, je la sors un peu, là. Puis là, quand je vois que c'est mou puis ça bouge plus, là, c'est vraiment une dinde dégelée, là, je l'enfourne.
Mais dans le four, tu la laisses combien de temps à peu près?
Ben, selon les recommandations du fabricant. Là,
OK, c'est ça.
Ben, sérieusement, là.
Je l'arrose pas mal souvent aussi.
Oui,
là.
C'est ça.
Exactement. Pour une dinde de 7 à 9 livres, là, moi, je laisse ça 3 heures à 400 quelques degrés, puis ça cuit vraiment bien. La dinde n'est pas trop. Le problème, c'est que souvent, les gens n'aiment pas la dinde parce qu'elle est sec. C'est souvent parce que les gens le laissent dans le four trop longtemps.
Ben, c'est ça. Il y en a qui mettent ça congelé puis attendent quoi, c'est 12
heures. Ma mère, elle laissait ça 24 heures.
Ah oui, c'est bien trop.
C'était sec en mort. C'était pas mangeant.
Non, c'est ça. Puis moi, je l'arrose.
On le disait pas, là, parce qu'on voulait pas la blesser, mais.
À toi, 20 minutes.
C'était pas mangeant.
Oui, c'est ça. Tu viens
on
la
dit une heure par livre dans le four.
Ah, tu t'es parlé gelé ou congelé? Gelé ou dégelé?
Ouais, ben, c'est une heure. Ça, c'est l'ancien temps, ça, Nick.
Ouais, mais c'est.
Tu sais, dans le fond, c'est à 375 degrés, c'est ça?
Ça, c'est une mosus de bonne question.
Okay, ça,
ouais, parce que c'est ça. Ouais, c'est ça. L'ancienne méthode, c'est 350, une heure par livre. Puis, tu sors une dinde du four, elle est complètement sèche. Ce que je recommande aux gens, c'est d'y aller de façon plus agressive. Une demi-heure par livre avec une température plus forte, puis vous allez avoir une très, très bonne dinde.
Mais dégelée.
Ben oui, c'est sûr, dégelée. Hein?
Non, mais c'est parce qu'il y a des gelées, là, puis c'est comme la solution magique. Non, non, hey, on dégèle ça avant.
Ben, si vous savez pas, si vous attendez à la semaine prochaine, vous achetez une dinde fraîche et non gelée, vous allez payer la peau des fesses. Là.
Non, c'est ça. Il y a des temps pour ça. Là. C'est comme dans le temps des fêtes, juste avant, je pense, au début décembre, hein, qu'ils viennent en rabais, là, dans ces eaux-là.
Ouais, absolument. En passant, c'est ça. Si vous planifiez manger de la dinde pour Noël, achetez-en deux. Peut-être même trois.
Là.
Oui,
ça te prend un gros frigo.
En fin de semaine, là.
Exactement. Flamber des prix à l'épicerie, tu dis possible avec des sanctions contre la Russie?
Oui, mais vous suivez ça, je me dis, vous parlez un peu de ce qui se passe avec l'Ukraine, avec la Russie, etc.
Ben là, on commence à être tanné, là. Je veux dire, on ne sait plus, là. Moi, je ne sais plus, là. Ben, la chute de Gaza là-dedans, Israël, là, à un moment donné, là, tu dis, là.
Oui, il y a ça aussi. Je comprends plus ce qui se passe. Bruit. Au niveau agroalimentaire, ça me préoccupe. Moi, c'est sûr que c'est préoccupant ce qui se passe dans la bande de Gaza puis avec l'Israël, etc. Exact. Mais pour ce qui est de l'agroalimentaire, c'est surtout l'Ukraine qui nous préoccupe parce que c'est une région qui est fertile, qui produit beaucoup, beaucoup de denrées agroalimentaires. Cette année, on est chanceux. C'est pour ça que les prix se maintiennent. Le blé, l'orge, le canola, il y a plein de produits qui sont à peu près... en fait, les prix sont très bas. Les producteurs agricoles, ils feront pas beaucoup d'argent cette année. Là. Dans le grain, là, ils feront pas beaucoup d'argent. Si vous parlez à des producteurs de grains au Québec, là, vous allez voir, là, ils font pas énormément d'argent. Mais nous, on en profite comme consommateurs. Si le régime Trump, si Donald Trump décide d'émettre des sanctions contre la Russie, ben là, ça pourrait justement affecter les prix. Et on pourrait voir justement le boisseau de blé augmenter en prix. Là. Le boisseau de blé est à peu près à quoi? 4,50 US, ce qui est un prix normal. Quand l'Ukraine a été envahie illégalement par la Russie, on a vu le prix bondir à 13 US le boisseau.
Et c'est ce qui avait créé une flambée à l'épicerie, notamment avant l'inflation. Oui, c'est ça.
C'est quelques mois plus tard, c'est ça exactement. Quand j'ai vu ça aller, j'ai dit, on est dans la merde. Mais si, par exemple, Trump décide d'émettre des sanctions contre la Russie, on pourrait revoir un peu le même scénario. Pas à 13 là, mais ça pourrait monter jusqu'à 7, 8, 9 $ Un peu ce qu'on avait en 2008 avec la crise, là, avec le pétrole à 147 $
oui, 150,
le baril US, tu t'en souviens, Pierre?
Oui.
Alors, à l'époque, là, on avait vu vraiment les denrées augmenter. Ça pourrait arriver. La géopolitique, vraiment, c'est fatigant, hein, et c'est difficile à prévoir. Là. C'est toujours difficile à prévoir ce qui pourrait se passer avec les denrées. Là, mais c'est ce qui nous inquiète actuellement.
Le prix du pétrole en 2008 était monté à 150 $ US le baril. OK, le litre d'essence le litre d'essence était monté à 1,50 $. Là, aujourd'hui, le prix du baril de pétrole est à 62-63 $ US et le prix de l'essence est à 1,50 $, 55-60 $.
Oui. En fait, à 62 $ là, t'sais, pour l'industrie, c'est quand même un bon prix. Puis le secteur pétrolier fait de l'argent. T'sais, c'est quand même pas si mal.
As-tu vu les marges de les marges de raffinage actuellement, là, des raffineurs, c'est 44 cents du litre actuellement. Eux autres font la passe.
Oh oui, absolument.
Donc, la business est bonne, oui, exactement.
Oui, non, en fait, c'est ça. Donc, là, on vit un moment de stabilité. Je sais que les gens ne s'en rendent pas compte, là, mais pour ce qui est du prix des denrées, on vit une certaine stabilité, mais ça pourrait changer du jour au lendemain si Trump décide de sévir contre Vladimir Poutine et la Russie. Et c'est une situation qu'on surveille de très, très près.
Oui, on va voir si ça va évoluer de ce bord-là. Écoute, tu nous dis les choses qui dérangent le plus à l'épicerie. Ça commence à s'accumuler, hein? Et, tranquillement.
On a fait un sondage, tu sais, c'est un sondage le fun, là. On demandait aux gens, qu'est-ce qui vous fatigue le plus à l'épicerie? Est-ce que c'est la ligne d'attente à la caisse, les caisses libre-service? Est-ce que c'est les mauvais prix, l'étiquetage? Est-ce que c'est de voir les gens tâtonner les produits à tout bout de champ, là? On touche tout, là. Pour voir si la tomate est mûre, si la pomme est correcte. Qu'est-ce qui vous fatigue le plus à l'épicerie, vous autres?
Toi, Nick, c'est quoi?
Ah, moi, c'est quand, mettons, je veux prendre les caisses automatiques là, parce que je trouve que ça va plus vite. Puis, mettons, j'ai une bouteille de vin ou une bière ou de l'alcool. Là, faut que j'attende que le commis vienne pour autoriser la sapristi de transaction parce que j'ai de l'alcool.
Ouais. Puis t'as, pour vérifier aussi ton âge.
T'as l'air d'un gars de 15 ans aussi.
Je sais pas. Je comprends, tu sais, je comprends qu'il faut qu'il vérifie.
T'es pas,
là,
t'es pas flatté, t'es pas flatté par le fait qu'on doute de ton âge, Nick?
Absolument, absolument, mais des fois, je perds du temps.
Moi, je comprends qu'on le fasse. Je comprends ce que tu veux dire, c'est fatigant, là, les caisses libre-service, à chaque fois, il y a tout le temps quelque chose qui bug.
Oui.
Puis on sent qu'on dérange du monde, puis on se sent surveillé aussi. Là. Ça fatigue beaucoup de monde, effectivement.
Moi, personnellement, l'attente à la caisse, t'sais, c'est parce que des fois, ils vont ouvrir une caisse avec un caissier. Puis là, il y a, mettons, tu as 6 ou 8 caisses en libre service. Et là, toi, faut que tu scannes ton épicerie au complet. Donc, tu fais un job de la caissière. Là. Finalement, à l'époque, on avait une caissière, puis on avait un emballeur. Tu peux-tu me donner un rabais, s'il vous plaît?
Oui. Absolument.
Tu sais, je veux dire, là, moi, je veux dire, j'ai pas de rabais, là, sur mon épicerie, puis je fais toute la job que tu faisais avant. Pourquoi tu le fais pas?
Ben, c'est comme pomper l'essence. Moi, je me souviens pas d'avoir su un rabais lorsqu'ils ont décidé de laisser tomber les préposés à l'essence. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir que quand on arrivait au garage, il y avait quelqu'un qui mettait l'essence dans notre voiture.
Non, exactement.
Mais là, aujourd'hui, tout le monde le fait, mais on n'a pas un rabais, là.
Ouais, puis même maintenant, on paye directement à pompe, là. On n'a même plus besoin d'aller voir le commis à l'intérieur, là.
Ouais, exactement.
Ouais, alors,
mais ce qui dérange, nous, on a fait un sondage à travers le Canada, puis ce qui dérange le plus le monde à l'épicerie, c'est les erreurs de prix.
Ah oui, mais
c'est numéro un.
Et d'autant plus qu'au Québec, là, si c'est en bas de 10 $, en haut de 10 $, là, ils te le donnent ou ils te le donnent pas. Puis des fois,
la loi a changé au Québec, c'est 15 $ maintenant.
Ben, 15 $. Mais des fois, il faut que tu testines avec eux autres, puis ils testinent en disant non, je vais te donner la différence. Ben non, la loi. Des fois, ils sont même pas au courant de la loi.
Ah ouais.
Donc, moi, j'ai vu ça. Il
va falloir que tu aies un magasin avec ton avocat.
Ben,
c'est
quasiment. Mais quasiment. Mais tout ça pour dire que. Effectivement, fait que là, ça, les gens, ils constatent qu'il y a une problématique là, réelle.
Oh non, exactement. Donc, c'est pour ça que, tu sais, à l'épicerie, il y a beaucoup de choses qui acharnent le monde. Moi, je connais beaucoup de monde qui n'aime pas faire l'épicerie, comme carrément pas. Ils vont commander en ligne parce qu'ils veulent éviter les épiceries. Moi, j'adore faire l'épicerie. Moi
ça me regarde. Moi, ça me regarde.
Ah ouais, je regarde le monde, je regarde ce qu'ils ont dans leur panier. Des fois, ils me regardent avec l'air bête.
C'est qui ce gars-là? C'est le gars du podcast.
C'est qui ce gars-là?
Mais c'est quoi?
Mais en gros, c'est...
Dans la lignée, là, tu dis l'histoire des prix, mais c'est quoi les autres, les autres problématiques?
Donc, erreur de prix est au numéro un. En deuxième place, c'est l'attente à la caisse.
Ah, c'est ça.
Oui, l'attente à la caisse, c'est vraiment...
Un irritant.
Peu importe, ça, libre-service ou avec humain, là, ça dérange beaucoup de monde. Tu sais, d'attendre pour payer pour ta propre bouffe, là, c'est pas quelque chose que les gens apprécient.
Donc, et je l'emballe l'emballe puis je la scanne. Mais on devait avoir des paniers intelligents. Moi, je me souviens d'avoir été dans des colloques de commerce au détail à New York. Puis là, ça s'en vient, les paniers intelligents, puis les scans, puis tout ça.
Oui.
On n'a rien vu de ça encore.
Non, il y en a maintenant. Tu sais, j'étais allé à New York au printemps, puis il y en a de plus en plus. Mais au Canada, on évite ça pour l'instant parce que, évidemment, ça coûte de l'argent. Puis le plus gros problème actuellement, c'est le vol. Hein. J'ai rencontré...
Ils se font voler, c'est l'enfer. Ouais, ouais.
J'ai rencontré un PDG d'une grande entreprise. Je ne vous la nommerai pas. Là. C'est un entretien privé. Mais tu sais, le plus gros problème actuellement, c'est le vol. Là. C'est vraiment un gros problème.
Puis ça
pas trop comment gérer ça.
Non. Je vois de plus en plus d'agents de sécurité à l'entrée d'épicerie ou de supermarché qui disent non, tu ne rentres pas avec ton sac. Là. Puis il y a déjà beaucoup de monde dans l'épicerie, vous allez attendre 2-3 minutes.
Costco, ils vérifient. Là, ils commencent à faire ça ailleurs peut-être là aussi. On va peut-être vérifier les sacs des gens avec les factures en sortant. Peut-être que quand tu te fais voler du gros stock, là, on va vérifier, avec un agent de sécurité
à part.
À suivre. Ouais, Sylvain, tu es salué. Merci beaucoup.
Bonne journée, les gars.
Bye-bye. Voilà, Sylvain Charlebois, le food professor. Il y avait un délai, là. Hein?
Une petite affaire.
On va essayer d'arranger ça la prochaine fois.
Absolument.
Mais c'est vrai. Écoute, moi, je pense qu'on pourrait aller là pour la question. La ligne ouverte.
Ouais.
Les choses qui vous dérangent à l'épicerie, est-ce que c'est l'attente à la caisse? Est-ce que c'est le manque de stock? Tu sais, des fois, tu arrives, mettons, l'épicerie ferme à 9h ou 9h30, 10h. Puis t'arrives une demi-heure avant, puis tout est défait comme s'il y avait eu une guerre nucléaire. Après ça, les mauvais prix affichés Ça, normalement, ils doivent vous rembourser si c'est en bas de 15 $.
Oui, puis tu sais, autre chose, il y a de plus en plus de gens. Parce que maintenant, tu peux le faire avec Uber Eats, par exemple, te faire livrer ton épicerie.
Oui.
Il y a de plus en plus de gens qui vont faire livrer leur épicerie directement avec Uber Eats ou des applications du genre. Là.
Le faites-vous? Moi, je le fais pas encore. C'est pas encore dans ma nature.
Moi non plus. Mais tu sais, tu l'as l'option. Là. Tu veux Super C ou GA, puis là, tu fais ta commande, puis ils vont te chercher ça, c'est capoté. Là.
Exact. Donc, il y a ça. Écoute, je pense qu'on va pouvoir en débattre après la pause.
Absolument.
Les choses qui vous dérangent le plus à l'épicerie.
Ouais.
Et selon le sondage de que Sylvain a obtenu, là, l'Université de Dalhousie, ben c'est les mauvais prix qui arrivent en premier lieu.
C'est sûr que c'est tannant.
Les mauvais prix, les prix étiquetés, parce que là, on voit de plus en plus aussi des prix qui changent les étiquettes. Hein. Tu as des étiquettes électroniques, là, puis selon l'heure du jour, la tarification dynamique, ça, on n'a pas vu ça beaucoup, mais ça s'en vient aussi.
Il y en a beaucoup qui disent ceux qui stallent, puis qui coupent le chemin parce qu'ils vont goûter des affaires. Là.
Ah, Costco, mettons.
Mettons, là.
Entre autres.
Hey, Costco. Ça, c'est gossant parce qu'il y en a là, ceux qui prennent toute l'espèce d'allée
ouais.
pour choisir une affaire. Hey, tu une bande. Ginette, t'as une bande de pinotti, là, ou l'autre que là. Puis ils bloquent toute l'allée pendant 3 minutes. Moi, je pogne les nerfs.
Ben là, tu dis, excusez, je veux passer. Puis là, t'es. Non.
T'es
ben,
pousse.
Mais c'est ça, le problème, c'est que Costco, les allées sont pas assez grosses, là. Je veux dire, il y a ça aussi. T'arrives aux caisses, c'est le bordel, là.
Ouais, mais il y en a qui se pensent tout seul au monde, là.
Ah, ça, c'est.
88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 88-670-9098.
Radio X.